RCF.
Quoi de plus beau symbole que la vigne pour signifier la vie qui circule du cep au sarment ? La vigne dont le fruit fait la joie de ceux qui la boivent, la vigne qu'il faut soigner aussi et régulièrement élaguer pour la fortifier. C'est cette image hautement biblique que Jean nous propose dans l'évangile de ce dimanche. Et pour le commenter, je reçois cette semaine Anne Lécu. Elle est religieuse dominicaine et médecin en milieu carcéral. Nous écoutons la parole, c'est au chapitre 15, versets 1 à 8.
Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. »
Anne Lécu, parlons d'abord du contexte, parce que c'est le chapitre 15, c'est un peu le discours d'adieu, ce qu'on appelle le testament spirituel de Jésus.
Alors c'est une sorte d'évangile dans l'évangile, en fait il y a les quatre grands chapitres du chapitre 13, cinq grands chapitres, du chapitre 13 au chapitre 17 de l'évangile de Jean, sont le cœur de son évangile. Et dans ces cinq chapitres, au chapitre 13, pour situer, il y a le dernier repas de Jésus, le lavement des pieds, et à la moitié du chapitre 13 commence ce grand discours de Jésus dans lequel on est tout au long du chapitre 14, du chapitre 15 et du chapitre 16. Et au chapitre 17, il y aura la grande prière de Jésus à son Père. Donc là, on est au milieu de ce grand discours qui englobe de la fin, enfin de la moitié du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Et ce chapitre 15 est divisé en deux parties. Donc là, on a hélas que la moitié de la première partie sur la vigne et sur ce que ça peut vouloir dire que demeurer.
Mais c'est un peu dommage, c'est que la liturgie coupe beaucoup en morceaux de dimanche en dimanche, et puis du coup ça bloque un peu.
Oui, alors ça bloque un peu le texte, parce qu'il faudrait pour bien faire lire du verset 1 au verset 17 pour avoir une pleine interprétation de ce texte. Mais je ne veux pas non plus savonner la planche à mes petits camarades de dimanche prochain.
Revenons avec vous déjà sur cet évangile, lisons-le verset par verset. Jésus déjà s'adresse à ses disciples et il dit qu'il est la vraie vigne. Et que son père est le vigneron. L'allégorie de la vigne, c'est quelque chose qu'on connaît dans la Bible.
Alors l'allégorie de la vigne, elle a toute une histoire, notamment chez Isaïe, la vigne qui a été abandonnée. Quand Isaïe critique le peuple qui est devenu idolâtre, il dit qu'en fin de compte, cette vigne, eh bien, elle s'est laissée aller. Les bêtes sauvages l'ont mangée, alors que le père en avait pris soin, enfin que le gardien de la vigne en avait pris soin, mais que finalement, elle s'est tournée vers d'autres gardiens qui n'ont pas pris soin d'elle, et elle est morte, en fait, cette vigne. Donc, il y a toute une histoire sur une allégorie, enfin, une comparaison entre le peuple et la vigne. Donc, c'est ça qu'on a sans doute en tête quand on parle de la vigne. Mais juste avant, quand même, il y a un petit mot sur lequel il faut faire bien attention, c'est que Jésus commence en disant « Moi, je suis ». Ce qui est une manière extrêmement solennelle de parler. Il y en a très peu de situations où Jésus dit avec cette solennité en grec « ego aimi », et là il va le dire deux fois, au verset 1 et au verset 5. « Moi, je suis ». Et ça rappelle la parole de l'Exode, quand Dieu révèle son nom au peuple en disant « Je suis qui je serai ». Donc à chaque fois que Jésus dit « Moi, je suis », il se place en situation de fils de Dieu. C'est pas juste le bon copain qui parle, quoi. Il s'inscrit dans la divinité, dans sa lignée de fils du Père.
Et alors, la vraie vigne, il est question de la vérité, c'est une notion qu'on retrouvera à d'autres moments chez Jean. Qu'est-ce que vous diriez sur cette vérité?
C'est très très compliqué. Alors, il ne parle pas du tout de vrais fruits. Il va parler de vigne véritable. Et, sauf erreur de ma part, je pense qu'il ne parle plus de la vérité après, dans notre extrait. La vigne véritable, il me semble qu'il faudrait peut-être l'entendre comme le fils véritable, le fils qui restaure la qui restaure l'humanité, et au-delà de ça, qui restaure la création. Voilà, il est la créature de Dieu, non pas la créature, il est le fils qui restaure tout, en fait, qui achève, mieux dit, qui achève la création du Père.
Alors, on verra que la vigne s'est constituée de lui, de Jésus, mais aussi des sarments, donc qui sont les hommes, et le Père et le vigneron. Il y a la notion du Père, hein, tout de suite.
Tout justement. À fait. Donc, le Père sera tout à fait présent dans notre texte. Il est présent au verset 1, au verset 8. En tout cas, il est présent au début et à la fin de notre texte. Et en fin de compte, on voit bien que c'est la relation entre la vigne et le vigneron qui est le lieu où le sarment peut se déployer. Et on voit qu'il y a une sorte de petit glissement là, entre le verset 1 et le verset 5, qui est presque le même. Hein. « Moi, je suis la vigne véritable, et mon père est le vigneron. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. » Voilà. Cette espèce de balancement où, au bout du compte, nous entrons, par la grâce de la vigne, dans la relation avec le père.
Anne Lécu, après avoir dit à ses disciples qu'il est la vraie vigne, Jésus dit « Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. » Parole très dense, d'emblée, et rappelez la finalité de la vigne quand même, c'est de porter du fruit.
Alors, c'est sûr que la vigne, elle est là pour le fruit. Mais avant ça, il me semble qu'il y a plusieurs petits détails qu'il faut regarder dans le texte. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit. Ce « en » est complètement essentiel, parce que dans les 8 versets qu'on a sous les yeux pour aujourd'hui, il y a 10 fois « en moi ». Comme si c'était un petit décalogue, une sorte de petit clin d'œil au décalogue. La véritable loi, c'est d'être en Christ, là où lui, il est. Voilà. Et donc c'est bien en lui qu'on peut porter du fruit. Sinon, si on n'est pas en lui, on ne portera pas du fruit. Et puis, il y a des jeux de mots en grec qu'on n'entend pas dans le français. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, c'est le verbe airei. Et émondé, c'est kat airei. Donc en fait, c'est une forme de poésie, hein, tout ce chapitre 15. C'est écrit en vers, enfin, d'une certaine manière. C'est pas juste un récit, c'est vraiment. Il y a une solennité dans l'ensemble de ce texte. Et donc effectivement, comment dire. Celui qui ne porte pas de fruit va être jeté. Autrement dit, ce qui est déjà mort part à la poubelle. Mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle, ça faut l'entendre comme une bonne nouvelle. Que ce qui est déjà mort parte à la poubelle, réjouissons-nous de cela. Mais celui qui porte du fruit, eh bien, il va falloir qu'il porte plus de fruits. Et là, il va être émondé. Et on va savoir comment, immédiatement, par la parole. Donc, le verbe émondé, on va le retrouver juste après. C'est pas vous êtes purifié, c'est... Déjà, vous êtes émondé grâce à la parole, à travers la parole, par le moyen de la parole.
Mais justement, donc, visiblement, émondé et purifié,
c'est le même mot. C'est pour ça que je prends la traduction de Sœur Jeanne d'Arc qui dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte plus de fruits. Vous, déjà, vous êtes émondé grâce à la parole que je vous ai dite. En » fait. Donc, la manière dont Jésus nous fait porter du fruit... C'est par sa parole. Et sa parole, elle a un effet qui est de couper des sarments qui pourtant avaient l'air bien vivants de façon à faire porter du fruit à ceux qui vont en porter.
Mais en tout cas, supprimer des sarments morts en viticulture, c'est enlever ceux qui sont stériles sur la vigne.
Oui, mais émonder, c'est autre chose, là. Là, c'est émonder, c'est enlever des sarments vivants pour donner du fruit. Ça veut dire quelque chose pour nous qui n'est pas facile à entendre, qui est qu'il y a des moments dans la vie, il faut faire des choix. Enfin, il faut faire des choix pour porter du fruit. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas courir 40 lièvres à la fois. Voilà.
Alors, la parole vient aider donc
à distinguer, à séparer, à couper.
Elle vient pas seulement aider, elle coupe. La parole, elle est tranchante, nous dira Paul, comme une arme à deux tranchants, comme un glaive. La parole, elle tranche si on accepte de l'entendre à la bonne hauteur, en fait. La parole de Dieu, quand elle dit, dès le Deutéronome, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie », la parole nous met au pied du mur pour qu'on puisse choisir la vie.
C'est son rôle, c'est d'amener du tranchant.
Oui, ouais, elle est tranchante. Ça veut dire aussi qu'elle nous invite, cette parole, à nous-mêmes avoir une parole tranchante. Alors, une parole tranchante, ça ne veut pas dire une parole qui blesse, ça veut dire une parole qui fait la vérité, qui ne raconte pas du blabla.
Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Anne Lécu, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que c'est chez Jean, chapitre 15, versets 1 à 8, Jésus s'adresse à ses disciples. « Demeurez en moi, dit-il, et moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Demeurer, c'est un mot bien sûr qu'on retrouve très très souvent chez Jean, et là il intervient... à de nombreuses reprises.
Oui, alors là, on l'a beaucoup, beaucoup dans ce passage. Et c'est dommage, donc, qu'on n'ait pas la fin du passage, parce qu'au verset 16, plus tard, on entendra que le fait de demeurer, on va comprendre ce que ça veut dire, parce que pour l'instant, on ne comprend pas ce que ça veut dire si on s'arrête au verset 8. En fait, demeurer, ce n'est pas juste demeurer en Jésus, c'est demeurer dans son amour. Et ça, on va le savoir au verset 9. Et au bout du compte, le commandement de Jésus, ce sera bien de demeurer dans son amour de la même manière que lui demeure dans l'amour du Père. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire de vigne et de sarment. C'est qu'en fin de compte, nous sommes invités à demeurer comme des sarments sur la vigne, de même que le Fils est dans cette relation avec le Père. Nous sommes invités à rentrer dans cette relation qui est extrêmement intime, puisque nous sommes assimilés au Fils, de la même manière que le sarment est assimilé à la vigne. Donc nous devenons fils par la grâce de l'amour de Jésus, au point que nous sommes des sarments de la vigne.
Alors vous allez déjà vite en besogne, mais c'est tout à fait juste. Mais revenons au texte, parce que quand il dit « Jésus, demeurez en moi et moi en vous », on a l'impression qu'il y a une réciprocité, une hospitalité réciproque là. C'est-à-dire que lui il veut demeurer en nous.
Oui mais, c'est là où je ne peux pas ne pas déborder sur le suivant, puisque la manière de demeurer, c'est l'amour du Christ. Et donc cette réciprocité, c'est d'ailleurs peut-être le nom de l'esprit, cette relation qu'il y a entre le Fils et le Père, c'est dans cette relation qu'il nous invite à rentrer, et lui demeure en nous pour que nous puissions demeurer en lui. Mais le mot-clé, c'est « demeurer dans mon amour », qu'on entend au verset 9 et suivant. Tel est mon commandement, vous aimez les uns les autres.
En même temps, si on reste juste au niveau de la vigne, ce qui est très beau, c'est que même sans avoir la fin avec l'explication, c'est que d'une manière botanique, ça va de soi.
Ouais.
C'est-à-dire que ça parle de soi, que si on ne demeure pas sur la vigne, on meurt.
Ah bah oui, et donc au bout du compte, quand le sarment est jeté dehors, c'est ce que vous dites, c'est une sorte de constat finalement. Le sarment qui n'est plus sur la vigne, ben il est mort. Donc il faut le couper, non pas pour le punir, il faut le couper parce qu'il est mort. Donc c'est un constat d'une mort qui a déjà eu lieu en fait.
« Moi je suis la vigne, dit Jésus, et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est très fort ça, cette parole.
Ah oui, alors c'est d'autant plus fort qu'on la retrouve dans le prologue de Jean, au chapitre 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 1, verset 3, il nous est dit « Tout fut par lui ». Et sans lui, rien ne fut de ce qui est advenu. Et donc, on retrouve ce sans lui. Autrement dit, sans Jésus, rien n'existe. Et c'est là où on voit bien qu'on est, au niveau du Verbe de Dieu. Quand le Verbe se fait chair, c'est bien là, ce niveau de langage dans le chapitre 15, c'est bien sans le Verbe, nous ne pouvons rien faire. Ce que Michel de Certeau dit dans une formule magnifique, pas sans toi. Voilà. Et ce pas sans toi, parce qu'on ne peut rien faire sans lui, doit se répercuter pour nous vers les autres. C'est-à-dire, pas sans toi, c'est la parole que nous devons adresser aux autres, par notre vie, par nos gestes. Je ne peux rien faire sans toi, je ne peux rien faire tout seul. En fin de compte, je vais jusqu'au bout de mon idée, ils font de la communion en disant cela.
Anne Lécus, ce qui est très fort dans ce texte, c'est que Jésus se situe comme le cep, donc une sorte de sarment racine, mais ce n'est pas lui qui porte les fruits. C'est les sarments qui portent les fruits. Donc c'est quand même extraordinaire de penser qu'il compte sur les sarments, donc sur ses disciples, donc nous, et qu'il va se retirer derrière en étant le cep.
Tout à fait.
En tout cas, c'est une image très belle de ce que peut être une collaboration dans l'unité, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y aura aussi l'Esprit, le Père, le Fils, cette espèce de triade.
Oui, c'est là où le pour pas être trop dans un niveau abstrait, le « pas sans toi », et là je reviens à ce que je disais tout de suite, enfin, fonde la communion entre nous, ça c'est un truc complètement essentiel. Ça veut dire que si nous ne pouvons rien faire sans lui, la conséquence directe, c'est que nous ne pouvons rien faire les uns sans les autres. Et au bout du compte, c'est ça le fruit. Peut-être que le fruit, c'est dans l'entre-nous qu'il surgit, dans le fait que nous ne pouvons pas faire tout seul quelque chose. Donc de même que le Fils ne peut rien sans le Père, de même que le Fils ne peut rien sans les sarments, de même que les sarments ne peuvent rien sans la vigne, eh bien, les uns sans les autres, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi la suite est logique. C'est bien de demeurer dans l'amour qui permet de porter fruit, sachant que l'amour, c'est cette espèce de relation qu'on ne peut jamais définir, qui est toujours, qui s'enfuit toujours, sur laquelle on ne peut pas mettre la main, mais qui nous lie les uns aux autres, en fait. Et le cœur du texte, à mon sens, vient après, dans le grand commandement de l'amour du verset 9, qui est repris au verset 12. Entre les deux, il y a le verset 11, qui nous dit: je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit en plénitude. Donc la finalité de tout ça, et peut-être le fruit, c'est la joie. La joie qui est, moi je me rappelle ce que me disait une sœur bénédictine il y a très longtemps, qui maintenant est décédée, la joie c'est ce qui reste quand on a tout donné. Peut-être c'est ça l'histoire, c'est que le Fils donne tout pour ses sarments, et comme vous le disiez, il se retire, mais du coup la joie elle va jaillir de ce que, ensemble, les uns avec les autres, on peut produire du fruit.
Anne Lécu, dans l'évangile de Jean que nous lisons ce dimanche, il est question du feu à un moment donné, puisque les sarments secs, dit Jésus, eh bien on les ramasse, on les jette, ils brûlent. Il décrit ce qui se vit quand on taille la vigne, finalement. Et puis après, il redit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Comment vous interprétez cette parole?
Alors, sur le feu, peut-être il faut aller entendre ce que disent d'autres évangélistes. Par exemple, sur la géhenne qui brûle, ça peut faire peur, toutes ces images de feu qui brûlent. Mais si on entend que le feu brûle ce qui est déjà mort, eh bien le feu nous purifie, enfin le feu permet la vie, au contraire. Peut-être que le feu et l'esprit ont quelque chose à voir. On retrouve ça aussi chez saint Paul, le feu brûle ce qui est sans consistance. Mais le fait que ce qui est sans consistance soit brûlé, ça permet à ce que vive tout ce qui a de la consistance.
Et c'est le procédé de l'or, par exemple, qui doit passer au feu.
Qui doit passer par le feu. Donc le feu n'est pas nécessairement une image tragique. Brûler ce qui est déjà mort dans ma vie, bah oui, Seigneur, vraiment sans problème, quoi. Vas-y. Enfin, au contraire, hein, pas de problème. Alors, pas de problème, oui et non, parce que des fois, ça peut-être qu'on croit que c'est vivant, ce qui est déjà mort. Bon. Et juste ensuite, donc, cette parole que vous venez de reciter,
demander.
Sur la demande. Et ça, c'est quand même... on a une sorte d'impression d'un décrochage. On n'est plus tout à fait dans la logique de la vigne. Mais ça veut dire que quand on est enraciné dans le Christ, quand on est un sarment de la vigne, la prière du Fils devient la nôtre. Ou plus exactement, le Fils, dans sa supplication vers le Père, emmène notre supplication. Et ce que dit Jésus, c'est bien, il le dira un peu plus loin, c'est: si vous demandez en mon nom, c'est la demande en son nom. Autrement dit, associé à sa propre supplication, qui est de toute façon exaucée par avance, parce que c'est la prière du Fils. Donc ça veut dire pour nous que toute prière adressée à Dieu, au bout du compte, si nous sommes dans une disposition simple qui est d'être au pied de la croix, en fait, devant Jésus, eh bien, il la prend avec lui pour l'emmener vers son Père. Aucune de nos prières n'est séparée de la prière du Christ. Et je trouve que ça aussi, c'est très rassurant sur le fait que nous n'avons pas à nous inquiéter sur la qualité de notre prière. Ce n'est pas le sujet, puisqu'en fait, toute prière est assumée par la prière du Christ. Et rappelons-nous que ce grand discours de Jésus, il se situe au moment où il va à sa passion, où il est donc, nous disent les autres évangélistes, dans le Jardin des Oliviers, peut-être, en tout cas, c'est entre le dernier repas et la crucifixion qu'il dit tout ça. Donc, il dit bien qu'au moment même où peut-être les disciples ne savent plus où ils en sont, où ils se sentent peut-être indignes, ou peut-être ils vont le trahir, eh bien que sa prière, que leur prière, pardon, est portée par la sienne. Ça, c'est magique.
Et il ne dit pas « je vous exaucerai » ou « mon Père vous exaucera », mais cela se réalisera pour vous. On a l'impression qu'il y a presque une responsabilité du croyant, de celui qui croit.
Je ne sais pas si c'est une responsabilité. Le mot grec, c'est « cela adviendra ». Du même verbe utilisé dans le prologue, la création advient. Donc je crois que c'est plutôt un accomplissement de la vie de quelqu'un que... Et on ne sait pas sous quelle forme, c'est pas forcément. Encore une fois, c'est pas un truc qui serait je demande quelque chose, je suis exaucé exactement dans les termes dans lesquels je demande. C'est l'attitude dans laquelle on est devant Dieu qui est le lieu d'un accomplissement pour sa propre existence.
Comme le fait d'être greffé à la vie, il se passe quelque chose.
Et on retrouve l'image. Le sarment, il n'en sait rien pour l'instant à quoi va ressembler son fruit. Hein.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Lisons avec vous, Anne Lécu, le dernier verset de l'Évangile. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez des disciples. » Là, il y a la notion de gloire qui intervient.
Oui, alors c'est une notion compliquée, la notion de gloire. En hébreu, ça veut dire quelque chose qui a du poids, de la densité. Et un petit texte de Jacques Ellul que je lisais récemment, un commentaire de l'épître de Jacques, Jacques Ellul dit « La gloire révèle quelqu'un. Glorifier Dieu, c'est révéler Dieu à quelqu'un. » Et je trouve que du coup, ça nous ouvre aussi à quelque chose, c'est-à-dire que devenir des disciples, c'est finalement révéler Dieu à quelqu'un. Et tout ça, c'est synonyme. Glorifier le Père, porter beaucoup de fruits et devenir des disciples... C'est-à-dire le même verbe, hein, devenir mes disciples, que cela arrivera pour vous. C'est le verbe guinomai. Eh bien, c'est la même chose. Donc, porter du fruit, c'est glorifier le Père et devenir des disciples de Jésus.
Alors, il y a un petit mot important, c'est pas simplement fruit, mais beaucoup de fruits. On retrouve la logique de l'abondance.
Oui, il l'avait dit au début, au verset 5, « Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. »
Ça, on retrouve ça chez Jean, souvent. Vous avez déjà commencé à nous dire en quoi cet évangile, Anne Lécu, il est une bonne nouvelle, mais qu'est-ce que vous rajouteriez? Parce qu'il est très dense.
Alors moi, j'invite vraiment, vraiment nos auditeurs à lire jusqu'au verset 17, parce que le cœur de ce texte, c'est le verset 11. C'est « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit en plénitude. »
C'est peut-être pour ça qu'il prend l'exemple de la vigne.
Voilà, donc la joie, c'est le cœur du texte, qui est encadré lui-même par le commandement de la charité. Et demeurer, en fait, ne peut se comprendre que dans cette relation de charité qui pour nous, va nous ouvrir à la joie. Et la joie, c'est quelque chose qui dilate, de même que la vigne, elle se déploie dans son fruit. Et ce qui est tout à fait magnifique, c'est qu'à la fin de ce texte, au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc, au bout du compte, ce qui va demeurer, c'est le fruit. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que... Comment dire ça? Nous ne pouvons pas mettre la main sur le fruit nous échappe, mais il demeure après nous parce qu'il témoigne de la gloire du Père. Et je crois que ça, c'est aussi la logique des disciples qui vont annoncer le Christ à d'autres, qui à leur tour vont annoncer à d'autres. Et voilà que ce fruit demeure, ce fruit c'est la bonne nouvelle qu'aujourd'hui nous entendons, que parce que nous la partageons entre nous, d'autres pourront l'entendre, et que demain encore, d'autres la partageront pour qu'elle soit entendue. Et le texte se termine par deux injonctions. « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Donc on revient sur la prière de Jésus. Et le dernier, c'est à nouveau ce commandement. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et là, le texte est clos. Donc le commandement est finalement simple. Alors à la fois c'est compliqué, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être riche, pauvre, bien portant, malade. Ce qui compte, c'est d'aimer. Ça paraît banal de le dire. Et Jésus va nous donner un petit indice. La manière d'aimer, c'est de donner sa vie pour ses amis.
Et c'est ça, porter du fruit ?
Je pense que oui.
Parce que comment le savons-nous, finalement, que nous portons ou pas
J'espère que nous ne le saurons jamais. Je pense que le véritable fruit, nous ne le connaissons pas. Si nous commençons à nous intéresser à nos propres fruits, ils vont pourrir sur place dans la minute même. Donc si on commence à se dire « Ah, je porte du fruit » ou « Telle communauté porte du fruit », il faut du temps pour ça connaître le fruit. Et ce sont les générations suivantes qui peuvent connaître le fruit que l'on a porté, et en aucun cas nous-mêmes. Je crois qu'on est toujours ignorant du fruit qu'on a porté. Ça ne peut être que les autres qui le savourent et qui en profitent. Et ça n'a pas d'importance de ne pas le savoir.
Sur l'émondage, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être émondé dans sa vie d'homme et de femme ?
Je crois que ça veut dire que... Oui, qu'il y a des choix à faire, des orientations à faire, qu'il y a des occasions à saisir aussi, peut-être. Et en même temps, moi, je tiens au fait que, à la fois, les occasions à saisir, on peut les rater, et elles ne se représenteront pas. Bien. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de sérieux de l'instant présent, de la rencontre présente, et en même temps, toujours Dieu revient avec d'autres occasions à saisir. Donc si on en a raté une, ce sera peut-être pas la même demain, mais il y aura d'autres occasions à saisir. Donc émonder, je crois que c'est, décider quelque chose de sa vie, en fait. Est-ce que je suis présente à la rencontre qui m'est donnée de vivre aujourd'hui, ou pas ? Peut-être c'est ça, simplement. Je choisis de donner du temps, je choisis de ne pas en donner, mais on ne peut pas faire les deux en même temps.
Merci à vous, Anne Lécu. Pour ceux et celles qui veulent retrouver cet évangile que nous avons lu, je rappelle que c'est chez Jean au chapitre 15, versets 1 à 8. Et puis je signale que votre dernier livre est paru aux éditions du Cerf. À Marie, c'est un recueil de lettres, il est paru en 2020.
Merci.
Merci à vous.